René Bazin, La Sarcelle bleue. Comment s'appelle-t-elle, votre histoire ? L'histoire de la marquise Gisèle. Un joli nom, observa Thérèse. Savez-vous, mon parrain, que vous ne m'avez pas encore fait compliment de mon dessus de clavier ? Regardez, tout au passé, vieux rose et vieil or sur fond blanc. Est-ce joli ? Oh, ce sera surtout inutile. Oh, inutile, dit Thérèse en penchant sa tête blonde sous le rayon de la lampe pour nouer un brin de soie derrière la bande de drap. Et quand ce serait? Je fais assez de choses utiles ici, monsieur mon oncle et parrain, pour avoir le droit de broder le soir un tapis de piano. Mais on dirait une robe de cour. Eh bien, pour un logis comme les pépinières, Thérèse. Justement, c'est ce qui me plaît à moi. Des dessins qui courent bien, des couleurs, de la soie, de la laine fine. Auriez, si vous voulez, cela repose les doigts, les yeux et le cœur. N'est-ce pas, mère ? En face, de l'autre côté du guéridon, une femme encore jeune, vêtue d'une robe forcée à gilet mauve, leva la tête en laissant retomber posément ses deux mains qui tenaient une dentelle au crochet. Ses yeux bruns, très calmes, l'ovale plein de ses joues, la bouche mince et un peu longue, la ligne noble des épaules attestait en elle une race raffinée. À droite, un petit homme, tout blanc et tout nerveux, ridé, l'œil gris, les cheveux foisonnant autour d'une calotte de velours, la barbe divisée en deux pointes comme une queue d'hirondelle, se redressa à demi dans le fauteuil où il sommeillait. Elle et lui sourirent du même air de ravissement en regardant Thérèse, et la mère dit « Oui, ma mignonne. »« Ce sera charmant, ajouta le père, surtout l'oiseau de paradis, mais il faudra un peu arrondir les ailes. » « Comme ceci, n'est-ce pas ? » demanda Thérèse en dessinant du bout de son petit doigt une ligne idéale sur la bande brodée. M. Maldon ferma les paupières en signe d'assentiment et se renversa doucement en arrière sans cesser de sourire. « Alors, Thérèse, vous ne m'écoutez pas, » dit Robert. « Vous ne voulez pas que je raconte ?»« mais si, » répondit la jeune fille en se posant bien droite sur sa chaise et saisissant son aiguille. « Je vous écoute avec recueillement. Mais dites-moi d'abord, quel âge elle avait, votre marquise Gisèle ? 16 ans, 17 ans comme moi ? Non, elle était mariée. » Thérèse, une petite moue, qui essayait bien son visage très jeune. « Oh, c'est moins intéressant, » fit-elle. « Vous trouvez ?» reprit Robert. « Oh, il y avait si peu de temps qu'elle était mariée, 2 ans à peine, et elle aimait son mari. » C'était autrefois, Thérèse, quand il existait beaucoup de grandes forêts avec peu de routes au travers. Le marquis fut obligé de partir pour la guerre et en partant, il dit à sa femme « Vous aurez sans doute à repousser les attaques de nos ennemis. Je sais qu'ils ont juré de vous enlever par la force. Mais les murailles sont solides. Je vous laisse de bons hommes d'armes et j'ai confiance en vous. Au revoir, ma petite Gisèle. » « Au revoir, » répondit la dame. Et le seigneur s'éloigna. « Les seigneurs de ce temps-là, » interrompit Thérèse, « c'était comme les officiers de marine, toujours en route. Mon amie Henriette, qui a épousé un lieutenant de vaisseau. » Elle s'arrêta devant le mouvement d'impatience de Robert. « Oh, je vous fâche, » murmura-t-elle. « Allez, tenez, je ne dirai plus absolument rien, plus rien. Je vous le promets. » Vous saurez donc, Thérèse, que le marquis ne s'était pas trompé. Le château fut assiégé. Tout le monde fit son devoir. Mais avec le temps, la famine arriva. Bientôt, il n'y eut plus qu'un peu de farine de seigle pour la garnison et un peu de froment dont on faisait chaque jour un pain pour la châtelaine. Les bœufs, les moutons, les chevaux même avaient été mangés. Un seul vivait encore, la jument de la marquise Gisèle, une aquenée brise, rapide et pommelée, comme un nuage. Pour le nourrir, l'écuyer, qui savait combien sa maîtresse la chérissait, trompait la surveillance de l'ennemi et descendait la nuit dans les fossés, cueillant lui-même les herbes, des roseaux, des feuilles d'arbres qu'il apportait sur ses bras couverts de peaux de daim, ou bien il faisait couper les plantes parasites qui poussent aux fentes des pierres, les mousses, les pariétaires, le fumeterre à fleurs roses, dont le donjon avait une couronne en temps de paix. Mais malgré tant de prévenances, la pauvre bête maigrissait à vue d'œil. « Sire écuyer, disait la marquise, mieux vaudrait la tuer comme les autres et la partager entre mes hommes d'armes. Car je sens bien que je n'irai plus avec elle, mon oiseau sur le point, chasser les rérons et les perdrix de mon seigneur. Lui et moi, plus jamais nous ne sortirons ensemble par la porte qui s'ouvre sur la forêt. » Mais l'écuyer la rassurait et refusait de tuer la Hackenée. Robert, qui levait volontiers les yeux au plafond, lorsqu'il racontait, les abaissa en ce moment vers Thérèse. L'immobilité et le silence de sa filleule l'étonnaient. Il remarqua que la bande de drap était à moitié échappée aux mains de la jeune fille. Une des extrémités avait roulé à terre. Pour l'autre, n'était maintenue sur les genoux de Thérèse que par trois doigts roses qui n'avaient plus guère conscience de leur rôle. La jolie tête blonde commençait à fléchir vers l'épaule et rencontrait déjà le rayon d'or de la lampe. Robert était susceptible. Mais il y avait une créature au monde qu'il aimait mieux que lui-même. C'était l'enfant qui ne l'écoutait plus. Après une pause si légère que ni le père ni la mère, dont la pelote de fil en se déroulant faisait un bruit de souris, ne s'en aperçurent, il reprit d'une voix plus basse, un peu chantante et berceuse à dessein. Un jour, enfin, triste, l'écuyer se présenta devant la châtelaine et lui annonça qu'il n'y avait plus de vivres, et que les plus vaillants de la garnison étaient morts ou blessés, et qu'il fallait se rendre. Alors, un petit soupir, le soulèvement léger d'un cœur que le songe habite, avertit Robert du succès de son histoire. La tête de la jeune fille, tout inclinée à gauche, était à moitié dans la lumière et à moitié dans l'ombre. « Alors, dit Robert en haussant la voix, il arriva que Thérèse Maldon s'endormit en écoutant l'histoire de son parrain. Elle se redressa vivement et, souriante avant même de pouvoir ouvrir les yeux, « Oh, pardon, fit-elle, oui, je crois que je dormais. C'était pourtant bien joli, les pariétaires, les mousses, fumetaires du donjon. Mais il y a longtemps que nous n'étions plus là, ma pauvre Thérèse. Tu meurs de sommeil, dit Madame Maldon, sur le visage de laquelle, à la moindre alerte, une ombre d'inquiétude maternelle passait. J'ai peur que tu te sois fatiguée, tantôt, avec cette treille. Thérèse fixa les yeux sur ceux de Robert pour dire son pardon, qui s'y trouvait d'ailleurs. « Non, c'est fini, dit-elle en passant la main sur ses paupières. « Non, répondit Robert, allez recommencer là-haut. Les enfants doivent se coucher le bonheur. « Et l'histoire de Gisèle, nous la finirons demain alors ?»« Ou jamais, murmura-t-il avec un peu d'amertume. « À propos, reprit Thérèse, sans l'avoir entendu, que faisons-nous demain ?» « Ben, comme tous les jours, ce que vous voudrez. »« Non, dit-elle gentiment, ce que vous désirez, vous. »« Eh bien, une promenade au bois de Lorette. »« Il y a si longtemps que nous n'y sommes allés. »« Mais je veux bien, tenez, je mettrai le chapeau à coquelicot que vous aimez. »« Oui, c'est cela. »« Pour vous, parrain, rien que pour vous. »« Car il n'y a que des loriots là-bas. » Robert sourit un peu tristement. Elle s'était baissée pour ramasser la bande tombée sur le parquet, puis elle s'était redressée, debout, épanouie, retenant de ses deux bras allongés l'étoffe qui barrait sa jupe. Ses doigts se mêlaient aux lames luisantes de la broderie. « Savez-vous, Thérèse, dit-il, que le jeune rose ne fait pas mal du tout sur le vieux rose ?»« Oh, toujours complimenteur, répondit la jeune fille. » Elle lui tendit la main, embrassa son père, sa mère, et glissant vers la porte avec un bruissement de bottines qui craquent et de rubans qui volent, elle disparut. tout droit la suivirent des yeux. Elle était toute leur joie. Mais déjà, M. et Mme Maldon s'étaient retournés vers la lampe et remet leurs fauteuils en les rapprochant l'un de l'autre, comme il arrive par instinct dès qu'une réunion s'émiette. Et Robert fixait encore la porte par où Thérèse s'en était allée. Devant son regard immobile, une vision passait de celle qui trouble le cœur. Cependant, il n'était pas à proprement parler un rêveur, et sa physionomie révélait plutôt une nature énergique, douée pour l'action. Il avait toute l'apparence, le geste, l'allure d'un officier de cavalerie qui commence à perdre de sa sveltesse première. Sur ses épaules un peu épaisses, la tête fine et bien plantée, faite pour le casque, les cheveux bruns, coupés en brosse, à peine grisonnants aux tempes, le nez droit, les joues plates, la moustache courte et la barbiche en pointe. L'œil était bleu, sombre, ferme, intelligent, le sourire discret, nuancé. Ses vêtements indiquaient un goût d'élégance, légèrement trahi par la fortune, une jaquette luisante, çà et là, un gilet blanc, et sous un pantalon large, des bottes vernies qui faisaient valoir le pied nerveux d'un marcheur. L'élégance relative de Robert ressortait d'autant mieux que rien autour de lui, ni la robe très simple de Madame Maldon, ni le complet de toile blanche de son mari, ni dans l'ameublement du salon qui servait aussi de salle à manger, ne prêtait à la même remarque. Le papier à grand ramage datait des premiers temps de l'invention. Les fauteuils de cuir brun montés bois d'acajou ne revêtent aucun style, et l'unique ornementation, assez singulière il est vrai, consistait en oiseaux empaillés disposés le long des murs et sur la cheminée. M. Maldon, dont le départ de Thérèse avait secoué l'esprit, se pencha vers sa femme et, prenant le peloton où elle venait de piquer le crochet d'ivoire, le posa sur le guéridon. Madame Maldon frotta l'une contre l'autre ses mains effilées et lasses d'avoir travaillé. « Elle est un peu rouge ce soir, » dit-elle à demi-voix. Bon, « je trouve aussi, » répondit M. Maldon, « mais qu'a-t-elle donc fait ?»« Mais des folies. Figure-toi qu'elle s'est mise en plein midi à épamprer une treille de chasselas. »« En juillet, par cette chaleur !» Prétendant qu'elle connaissait le pied de vigne, qu'elle aurait ainsi des primeurs. Elle n'avait pas de chapeau. Pas de chapeau ? Répéta M. Maldon en levant les yeux d'un air de stupéfaction et de mécontentement. Puis, sur son visage mobile éclairé par la lampe, cette première impression s'effaça. Quelque chose d'attendri, une joie inopinément éclose, presque une larme heureuse y parut. Il regarda sa femme et dit « Est-elle enfant encore, notre Thérèse ?» Madame Maldon, les cils baissés, cambrant sa taille mince, savourait à sa manière, plus froide, plus retenue, la même impression secrètement égoïste. Un sourire infiniment léger, très doux aussi, relevait le coin de sa bouche. « Oui, oui, répondit-elle, ô bien enfant, Dieu merci !» Mais tout à l'heure, elle dormait pour tout de bon, la tête sur l'épaule, comme aux premières veillées quand elle avait 12 ans. « Chère petite, oh, elle a bien le temps de grandir et de devenir jeune fille. N'est-ce pas, Robert ?» Tiré du songe qui le tenait, Robert détourna vers ses hôtes son regard où de toutes autres pensées assurément flottaient encore. « Mais es-tu silencieux ?» reprit Maldon. « Nous disions que Thérèse était une vraie enfant. Est-ce ton avis ?»« Hélas, mais tu trouves ?» « Mais je trouve tout le contraire, mon pauvre ami. C'est une jeune fille, et je le déplore. »« Mais allons donc, ni Geneviève, ni moi. »« Mais non, mais vous ne le voyez pas, vous autres, mais je vous le dis, moi. Elle se transforme, elle grandit, elle est déjà toute grande. »« Et la preuve, elle dort à mes histoires. »« C'est qu'elle est hélas. »« Du tout. »« Car elle ne faisait que bavarder et lire rire tout à l'heure. » Alors, c'est que tes histoires sont ennuyeuses. Mais non, puisqu'ils l'ont amusée quand elle était enfant. Les histoires sont restées les mêmes, Guillaume. Et c'est Thérèse qui a changé. Monsieur Maldon leva les épaules en signe d'incrédulité. Je vous prie de m'excuser, Geneviève, ajouta Robert, si je me retire un peu tôt. Je ne sais pas si c'est le soleil, mais je me sens la tête un peu lourde. Mais comme vous voudrez, mon cher. Je l'aurais parié, s'écria Monsieur Maldon en riant. Quand Thérèse n'est plus là, sous un prétexte ou sous un autre, Robert trouve moyen de nous fausser compagnie. Mais je t'assure qu'il. Va, mon ami. Le premier acquis de notre règlement de vie aux pépinières, c'est la liberté, n'est-ce pas? Allez, use-en comme il te conviendra. Seulement, dis-moi, quand reprendrons-nous le catalogue demain? Robert fit un geste évasif, indiquant l'absolu détachement. Après la promenade, dit-il, peut-être. Peut-être, mais jamais d'engagement précis avec toi. Voilà pour toi un beau travail, toute notre expérience, toutes nos recherches est si près d'être achevées. Tiens-moi 10 fois le jour, je le vois, ce volume imprimé. Catalogue raisonné des oiseaux du département, contenant l'énumération de toutes les espèces et variétés, par Guillaume Maldon, conservateur du musée d'histoire naturelle, avec. Voyons, Robert, faudra-t-il ajouter la ligne qui t'associera à la gloire de l'œuvre? Avec la collaboration de Robert de Quérédol, est-ce pour demain? Bon, pas probable, j'y suis plus. Mais sais-tu que tu es affreusement paresseux? Robert se leva. Oh, il y a si longtemps, dit-il négligemment. Il s'approcha de Madame Maldon, l'embrassa au front. Bonsoir, petite sœur, serra la main de Guillaume, qui répétait, moitié riant, moitié sérieux. Oh, l'amour de l'oiseau faiblit en toi, décidément. Et prit la parole par où Thérèse était sortie. Non, il ne pouvait rester. Ni son affection pour les Maldon, ni son habitude de corruption mondaine ne suffisaient en ce moment à lui faire vaincre l'impression qu'il éprouvait. Sa nature éminemment tendre, d'une susceptibilité qu'il cachait le plus souvent sur les dehors d'une indifférence volontiers railleuse et un peu brusque, s'était sentie atteinte, surprise et blessée à la fois par ce petit fait. Thérèse endormie. Dans ce mince détail dont le père avait souri, il avait, lui, reconnu le signe d'un changement profond. Je me trompais, murmurait-il en montant les marches de l'escalier de bois brun aux rampes carrées et lourdes. Oui, je la croyais encore enfant, parce qu'elle est très gaie. Je m'y suis laissé prendre. Elle a fermé ses chers yeux à mon histoire de la marquise Gisèle. Bien fait, Robert, bien fait, cela t'apprendra. Elle aura 17 ans dans un mois. Il entra dans sa chambre, vaguement éclairée par les lueurs traînantes des soirs d'été, alluma une bougie qui jeta des étincelles sur les panoplies d'épées, de sabres, d'épaulettes, de fusils de chasse et de guerre qui tapissaient les murs, et se dirigea vers une commode noire que surmontait à un pied de hauteur une petite bibliothèque vitrée en ébène. Sur la commode étaient rangés, pressés les uns contre les autres, des livres de classe aux coins brisés, aux pages recroquevillées et chiffonneuses, des cahiers par liasses et des deux côtés, en serre-file, des volumes de collections enfantines, bleues ou roses, et d'autres plus gros où l'on devinait des images. C'étaient les reliques de ces années d'enseignement quand il s'était improvisé. Avec quelle joie et quelle application de tout son esprit! Le professeur de Thérèse, humble, témoin des heures de travail ou de récréation, inutile depuis longtemps déjà, mais qu'il gardait là comme un bon souvenir qu'on aime à revoir. Il se disait bien que Thérèse n'ouvrirait plus pour y apprendre ses leçons la grammaire française, ni pour y faire une lecture, l'histoire de la poupée modèle. Mais où sont-elles les mères qui n'ont pas conservé le petit bonnet ruché du baptême, le premier jouet, la pelisse ample et brodée, pendant des mois et des mois, alors que l'enfant courait déjà tout seul devant elle. Robert les avait imités, et à présent, c'était bien fini. Il avança le bras et prit un des plus vieux volumes, long comme un doigt, maculé de taches, et le dos taillé en arnière par l'usure, et l'ouvrit à la première page. C'était une histoire sainte. Là, d'une grosse écriture de débutante, il y avait trois lignes bien connues de lui. « À mon bon parrain Robert, fleur de rosier de Bengale, offerte par son élève Thérèse. » Un peu plus bas, l'empreinte d'une fleur qui avait séché, puis disparu. Il relut plusieurs fois ce texte naïf, sécha du revers de la main une larme involontaire qui s'apprêtait à couler, et saisissant par paquets les livres et les cahiers, il les enfouit rapidement dans un des tiroirs de la commode. « Allô, » dit-il en fermant le meuble, « tout cela est mort. Maintenant, puisque mes histoires n'ont plus le pouvoir de l'amuser, faudrait trouver des lectures de son âge. » Ses yeux se levèrent sur la bibliothèque vitrée, si coquette avec ses glaces à biseaux et ses colonnettes torses. Depuis qu'il professait, M. de Quérédol n'avait pas eu le temps ni le goût de lire pour lui-même. Il possédait seulement et renfermait là une quarantaine de volumes, éditions de poche, artistement reliées, qu'il avait suivi à travers le monde. Sous le feu de la bougie, les titres, les dos de Bazade et de Baroquin luisaient doucement. « Quelque chose pour une jeune fille de 17 ans, » disait Robert. « Voilà qui est difficile. Voyons, discours sur l'histoire universelle, oh, trop grave. Voyage du jeune Anacharsis, d'un vieillot. Dominique, oh non, Dominique de Fromentin, c'est pas pour son âge. Guide de l'apiculteur, non. Briseux, deux volumes, oh pauvre poésie. Deux extraits peut-être. Molière, théâtre complet. Michelet, l'oiseau. Marquis de Foudras, les gentilshommes chasseurs. Corinne, oh décidément mon pauvre Robert, pas de chance. Tes histoires ne conviennent plus à la bibliothèque, ne conviennent pas encore. Et si peu d'œuvres, je suis presque au bout. Pensée, le Joubert, Rabelais, service en campagne 1866, compte choisi de Daudet. Oh, voilà, voilà mon affaire, les comptes choisis. Oh, choisissant encore parmi eux. Une jeune fille, tout à fait jeune fille, qui n'a rien lu. Oui, oui, elle aime à cela. Ce Daudet, la chef de Monsieur de Seguin, les étoiles, oh, les étoiles. Mais comment n'avais-je pas pensé? Mais sera contente, Thérèse. Et il souriait en cherchant dans sa poche la clé du petit meuble. Quand il l'eut saisie, il fit jouer le ressort qui rendit un son de neuf et le parfum du vieux cuir se répandit dans la chambre. « Mais voilà bien l'affaire, » ajouta-t-il en faisant basculer le volume qu'il posa à plat près du bougeoir. « Daudet, un moderne, celui-là. Avec lui, je suis sûr de ne pas l'endormir. Elle serait étonnée demain quand je lui annoncerai. Mademoiselle Thérèse, désormais les comptes choisis de Daudet remplacent les comptes usés de votre oncle. Oh, je gage, la pauvre petite, qu'elle sera touchée, reconnaissante. » Vive comme elle est, par exemple, il faudra tout de suite ouvrir le volume. » En se parlant ainsi, Robert fit quelques pas jusqu'à la fenêtre demeurée ouverte à deux battants à cause de la grande chaleur et s'appuya sur l'accoudoir. Vraiment, il était satisfait de sa trouvaille. Il se sentait en possession d'un moyen assuré de réparer l'échec de tout à l'heure. Ses yeux, errant sur le grand jardin noyé d'ombre tiède, ne vit rien d'abord que l'image présente à sa pensée. Thérèse, tout à fait heureuse et bien éveillée, qui le remerciait avec des mots jeunes comme elle, tandis que lui, assis près d'elle, lisait en y mettant le ton « La chef de M. Seguin ». Il voyait cela très nettement. Puis les rayons de lumière vive dont ses yeux étaient pénétrés, se dissipant peu à peu, Il commença à distinguer les teintes variées de la nuit. Ici le sable pâle de la grande allée, là l'ovale d'une corbeille de pétunia, les rayures brunes de plates-bandes du potager, des boules sombres qui étaient des buis caillés et des deux côtés du domaine, le vallonnement argenté des cimes d'arbres qui diminuaient, prenaient des mouvements de nuages et s'allaient réunir tout au long dans la brume. La vision de ces choses réelles et familières effaça l'image où s'était compu Robert et ramena dans son esprit la question à un moment écartée. 17 ans, pensait-il. Déjà. Mais un âge effrayant. C'est si délicieux, tous les rêves qui éclosent à la fois et trouvent le nid trop petit pour eux et s'en vont. Oh, si elle s'en allait. Dire que nous sommes trois ici, qui ne vivons que d'elle et pour elle. Et que cependant, au premier appel du dehors, elle nous quitterait peut-être, elle nous laisserait. Maldon n'a pas compris. Je sais bien qu'elle est merveilleusement pure, ignorante de la vie. Cela peut nous la garder quelque temps. Nous voyons si peu de monde. Les pépinières sont loin de la ville, et puis, elle nous aime. Comment ne mérite-t-elle pas ceux qui ont enveloppé sa jeunesse d'une tendresse pareille? C'est égal, je ne conçois plus la paix profonde où j'étais hier, ce matin encore. Il me semble que je ne pourrais plus la regarder sans avoir peur de la perdre. Oui, 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 il faut découvrir des moyens nouveaux pour l'intéresser, lui rendre le séjour au milieu de nous si agréable, si pleinement doux, que cela lui suffise, trois amis à aimer. Daudrey m'aidera un peu, un tout petit peu. Et le reste, oh mon Dieu, que c'est dur de prévoir. Il avait étendu le bras, sans trop songer à ce qu'il disait, vers une tige de bignonia grimpante qui jaillissait au-dessous de la fenêtre du bourrelet enchevêtré des clématites et des vignes vierges. Au bout de la tige, droite et ferme, une fleur s'ouvrait, son calice brun tendu au soufflement de la nuit. Robert la saisit et la tira. Mais la liane était si bien mêlée aux autres que toute une masse de feuilles en fut remuée. Et deux ou trois passereaux, gîtés sous ce couvert, s'envolèrent effarés. Et une voix venue d'en haut, une voix fraîche et nette, éclata comme un chant de mer le fuyard. « Ah, mon oncle, c'est vous !» Il lâcha la branche et se renversa légèrement, un seul coude appuyé à la barre de la fenêtre, pour regarder en l'air. Juste au-dessus de lui, à l'étage supérieur, Thérèse, penchée en avant, les deux bras étendus, les doigts engagés entre les lames des contrevents, riait de la peur qu'elle avait eue et de la surprise de son oncle, et de se sentir jeune et d'avoir la liberté d'être elle-même devant cette campagne voilée d'ombre où son rire se perdait. « Dire que vous m'avez fait peur, » dit-elle. « Oh, je ne sais pas ce que je me suis figuré. Rien du tout, je n'ai pas eu le temps. Mais j'ai eu le peur. Mais vous avez agité toute cette muraille verte. Mais à qui en vouliez-vous ?»« Moi, je cueillais une fleur de bignonia. J'ai peut-être tiré un peu fort. »« Oui, je le crois. » Ses lèvres se détendirent, les fossettes de ses joues disparurent. Et un sourire qui se faisait humble, très innocent, où toute une âme d'enfant parlait, descendit d'une fenêtre à l'autre. « J'espère que vous m'avez pardonné, » dit-elle. « Vous vous souvenez tout à l'heure. »«
Complètement pardonné, Thérèse. »«
Oh, je vous remercie. Bon, je ne sais pas ce que j'avais. Car vous voyez, je suis tout à fait éveillé maintenant, gai comme un pinson, et je n'ai plus envie de dormir. » « Bonsoir, parrain. »«
Bonsoir, mignonne. »
Robert la regardait, et sur sa figure fatiguée, une expression de contentement se peignait. Il vit le visage de Thérèse s'effacer, les deux bras ramener les contrevents, la grande baie à demi éclairée devenir subitement sombre, et il demeura cependant plusieurs minutes immobile. Puis il se retourna et se remit à songer. Il était plus rassuré. Ces mots, ce sourire si jeune, avait chassé les pensées troublantes. Et c'était le passé qui s'ouvrait à lui maintenant. Les 18 années de paix profonde écoulées aux pépinières, et que pas un orage n'avait traversé. Robert s'y enfonçait, il courait d'instinct, demandant à ses jours heureux l'espérance dont il avait besoin. Et comme il n'abusait point de ses retours sur lui-même, comme tous ses souvenirs intacts lui versaient leur douceur et comme leur premier miel, Robert s'étonnait de la beauté de la nuit, de l'éclat des étoiles baignées du fond des lacs que formaient les nuages, et surtout du bien-être singulier et de la plénitude de vie dont chaque respiration emplissait sa poitrine. Bien souvent, dans les grands souffles qui remontent la vallée de la Loire, poussant devant eux les goélands, il avait senti l'humidité saline et l'emportement des marées. D'autres fois, les fluves rares, fugitifs des végétations tropicales, adoptés de très loin sur des nuées qui le sèment. Mais ce soir-là, c'était autre chose. Une caresse faite pour l'âme, une joie que les lèvres buvaient pour elle. Du moins, Robert le croyait. Il lui semblait même entendre des musiques lointaines, des mots avec l'accent qu'ils avaient eu, des sons de trompettes et des bruissements de foule, les premiers cris et les premiers pas de Thérèse. Et tout cela venait de l'horizon, avec la brise sans force et sans hâte, vers la fenêtre ouverte. C'est que pour lui, cette période du milieu de la vie avait été la plus heureuse. Sa jeunesse ne lui offrait rien de semblable, mais une enfance austère et contrainte dans un château des marges de Bretagne, parmi des horizons de landes trempés de longues pluies, entre son père vieux et rude et la seconde femme de celui-ci, créature faible et douce, opprimée, maladive, dont Robert voyait encore dans ses rêves l'éternel sourire triste. Aucune gaieté pour répondre à celle de l'enfant, pas d'écho à ses jeux. Si ce n'est une petite fille née de ce second mariage, très gâtée, elle, très adulée, à peine connue de son aîné. Une instruction écourtée, puis le départ, une sorte de fuite hâtive, désirée de part et d'autre, pour la nommer, et alors, sans transition, l'Afrique, le régiment, la discipline, avec ses rigueurs et ses relâches brusques, des mois de cruelle monotonie et des mois d'aventure à la suite des tribus arabes. Robert s'accoutuma vite. Il était né soldat. Il se retrouvait chez lui parmi les gens de guerre. Rien qu'à le voir passer 8 jours après son entrée au corps, cambré dans son dolman bleu de chasseur d'Afrique, on devinait le futur officier, on sentait dans ses yeux clairs, dans le bruit relevé de sa bouche, toute l'ardeur superbe de la vie mêlée à l'insouciance du danger. Il n'avait, semble-t-il, qu'à laisser faire autant. Et certes, il eut pour lui d'heureuses fortunes. Les jours où l'on se battait d'abord, où l'on rentrait mourant de soif avec des fusils incrustés d'ivoire en travers de sa selle, la rencontre de Guillaume Maldon, plus âgé que lui, engagé à la suite d'un coup de tête, leur amitié bientôt liée sous la tente, rapidement mûrie, par le péril qui les pressait et les relâchait ensemble, et des actions d'éclat et l'avancement rapide et presse de la gloire. Ni les hasards, ni la misère, ni l'affection qui font les années inoubliables n'avaient manqué à celle-là. Cependant, un voile d'ombre encore avait pesé sur elle. À peine Robert venait-il de gagner ses galons de brigadier qu'il apprit la mort de son père. Monsieur de Quérédol laissait de grosses dettes. Sans hésiter, sans recourir aux expédients commodes de la loi, son fils accepta la succession, résolu à tout vendre, le château, les terres, les meubles, à s'endetter lui-même, à se réduire au strict nécessaire, tout le temps qu'il faudrait pour maintenir intact l'honneur de son vieux nom. Il y parvint et paya tout. Mais au prix de quels sacrifices et de quelles humiliations! Lui, si fier, si hautain même, traqué par les créanciers, il dut se débattre au milieu d'affaires ou de procédures devant lesquelles Il était aussi neuf, aussi désarmé qu'un enfant. L'épreuve dura des années. Il en sortait à peine quand la guerre de 1870 éclata. Et la guerre, ce fut la fin de ses rêves de gloire et de sa carrière de soldat. Blessé d'un coup de feu à l'épaule, presque au début de la campagne, le lieutenant de Quéredal souffrit de longs jours, guérit à moitié, retomba, et désespérant de pouvoir reprendre du service, donna sa démission. Il venait d'avoir 27 ans et il se trouvait comme abandonné à mi-chemin de la vie. Où aller? Que faire, malade encore, sans carrière, sans métier, sans plus de ressources qu'une modique pension de blessé? Maldonne, qui aurait pu le conseiller, l'aider peut-être, sorti du régiment avant 1870 et retiré en Anjou, semblait avoir oublié son ancien ami. Et le temps avait fait son œuvre. Pas une main ne se tendait vers Quéredal, pas un foyer ne s'ouvrait à lui. Il voulut cependant faire un essai, se rapprocher de l'unique parente qui lui resta, de sa demi-sœur qu'il avait à peine connue et aussi à peine aimée. Il la revit, jeune fille, douce et affectueuse. La mère était morte. Geneviève de Quéredal vivait chez son grand-père maternel. Elle accueillit son frère avec des transports de joie. Mais celui-ci comprit vite qu'il ne pouvait se fixer près d'elle, chez un étranger, dans un domaine qui n'avait jamais appartenu au sien. Et il ne savait que résoudre quand une lettre arriva qui le sauvait. Oh, la bienheureuse lettre! Comme elle était venue inopinément greffer l'idylle sur ce drame brisé de la vie de soldat! Comme Robert la revoyait nettement et jusque dans les moindres détails de la forme matérielle qu'elle avait, longue avec son enveloppe maculée de timbres, renvoyée de bureaux en bureaux, ces lignes serrées, bien ordonnées, que terminait un paraphe compliqué, déjà célèbre au régiment. Elle disait « Viens, mon ami, ma maison est assez grande pour deux, et de même la tâche que j'ai entreprise. Où peux-tu être? Mais comment se fait-il que tu n'aies pas pensé à ton vieux camarade, et que tu ne sois pas encore venu te soigner, te consoler, et prendre chez lui ta retraite? Accours vite! J'ai le plus joli des métiers à t'offrir dès que tu seras guéri. Tu te souviens de ma passion pour l'histoire naturelle. Elle a décidé de mon sort. J'ai demandé, j'ai obtenu sans lutte un emploi, peu envié, peu payé, mais qui me ravit. Me voici conservateur adjoint du musée d'ornithologie de la ville, à la tête d'une collection lamentable, fanée et honteuse de quelques douzaines de pies et de passereaux, auquel la paille sort par le ventre. Tout est à faire. Et je résolus de tuer moi-même, de préparer, de monter, d'étiqueter la collection complète de tous les oiseaux du département, de ce qui passe et de ce qui demeure, de ce qu'on rencontre tous les jours et de ce qui ne se montre qu'à de rares intervalles, comme des princes en visite. Déjà, je suis à l'œuvre. Le préfet m'a délivré un permis de chasse permanent. J'en aurai un second pour toi. Songe, mon ami, quelle belle fin de carrière. La chasse toute l'année, le grand air, la liberté, les bois et l'amitié fidèle de ton compagnon d'armes. Guillaume Maldon, ancien marchef de 2e chasseur d'Afrique. Robert partit. Il guérit de sa blessure. Il fut bientôt en état de suivre son ami. Et alors commença pour nous deux l'odyssée la plus étonnante et la plus passionnante. Ils y retrouvaient chacun quelque chose de leur ancienne vie. L'aventure, l'émotion des poursuites, des alertes, des coups heureux ou manqués, les courses lointaines, les nuits à la belle étoile. Toutes les propriétés privées, les domaines princiers, les parcs enfermés de murs s'ouvraient devant ces chasseurs d'une nouvelle sorte. Qu'importait au propriétaire le plus jaloux de ses droits le meurtre d'un épêche ou d'une pigriache rose? Partout accueilli, partout fêté, il courait d'un bout à l'autre du département, parmi les taillis, les prés, les vignes et les marais. Robert ne chassait pas, mais il avait un flair extraordinaire pour deviner le passage d'un oiseau, pour découvrir la trace sous le nez du gibier, pour dire par exemple « Oh Guillaume, je sens qu'il y a des bécasses dans les marouillers mêlés de bouleaux. La brume est violette ou elle embaume la feuille morte. » Ou bien, quand le printemps argenté au bord de la Loire met en éveil tout le petit monde des luisettes, il était merveilleux pour apercevoir, immobile à la pointe d'une grève, un combattant aux plumes hérissées, ou encore, posé entre deux chatons de saule comme une perle enchâssée, l'insaisissable fauvette bleue. Son compagnon était adroit et manquait rarement un coup de fusil. Au retour, ils travaillaient tous deux, soit au laboratoire du musée, soit à la maison des pépinières, triant et classifiant leurs prises, disséquant les plus belles, préparant les pots avec l'arsenic et la poudre de chaux. Mais Guillaume s'était réservé la pose. Lui seul, il bâtissait la carcasse de fils de fer ténue, la modelait à sa guise et avec une adresse, une science, une sincérité d'artiste indéniable, rendait à ses paquets de plumes la vie et le mouvement, la grâce et le lustre des ailes, et le trait si fugitif qui marque une humeur d'oiseau. Presque au début de cette existence nouvelle, un événement s'était produit qu'il avait consacré, assuré, embelli. Robert, très communicatif en apparence, causeur plein de verve et souvent plein d'esprit, s'était toujours montré d'une extrême réserve sur tout ce qui concernait sa famille. Il n'admettait personne dans les souvenirs bons ou tristes du passé et se bornait à partager le présent, mais le plus volontiers du monde, avec ses amis. Le plus intime de ceux-ci ne savait pas où vivait Geneviève de Quérédol, ni quels parents l'avaient recueillie, dans un château ou dans une ville, en France ou même ailleurs. Or, un jour de l'automne finissant de 1871, comme il s'agissait entre les deux amis de se procurer une espèce de grimpereau assez peu commun, le trichodrome échelette, un oiseau charmant à manteau gris perle avec des crevets rouges au fouet de l'aile, Robert assura qu'il connaissait le rendez-vous de tous les pics du département et qu'il se chargeait de la direction de l'entreprise et de trouver le gîte et le souper. Ils arrivèrent le lendemain soir dans la cour d'un très vieux logis en plein bois. Les murs et le toit jusqu'à la moitié disparaissaient sous les plantes grimpantes à peine taillées. Au-dessus des arêtes d'ardoises moussues, la futaie en demi-cercle étendait ses branches et enveloppait, enserrait d'ombre l'habitation. En avant seulement, une nappe d'eau de 10 hectares, dont les roseaux venaient frôler la grille de la cour, faisait dans ce rideau sombre une trouée de lumière. Celui qui demeurait là, le grand-père maternel de Geneviève de Quérédol, n'était pas le propriétaire de la forêt. Il n'en possédait, selon son expression, qu'une motte verte. Mais il était hospitalier, veneur comme un roi de France, et mit aussitôt à la disposition des deux amis ses chiens, ses bateaux, ses cabanes d'affût, et son garde aussi vieux que lui. Guillaume en profita largement, tandis que Robert demeurait au château. Il chassait du matin au soir et quelquefois du soir au matin. Le trichodrome échelette ne se montra nulle part. Mais il y avait toutes les variétés d'oiseaux de proie dans les hautes ramures des futaies, et sur l'étang des sarcelles, des canards, des hérons, quelques-uns rares et presque introuvables ailleurs. Et ce fut pendant une semaine pour Guillaume Maldonne une succession de captures heureuses, un ravissement que contribuait à entretenir au retour la présence de la jeune fille, assez jolie, avenante et gracieuse surtout, souveraine maîtresse et joie unique du vieux logis. Guillaume l'aima sans l'avouer. Il était timide. Il approchait de la quarantaine. Jamais il n'eût osé demander Geneviève, si peu riche et si simple qu'elle fût. Il hâta lui-même le départ. Le soir arrivé, il allait s'éloigner, très malheureux, emportant son secret. Et déjà, debout derrière le groupe que formaient ses hôtes et son ami causant ensemble à voix basse autour de la cheminée, ils regardaient une dernière fois la jeune fille avec cette douleur muette qui fixe nos regrets, quand Robert se leva, prit la main de Geneviève et la mit dans celle de Guillaume en disant « Eh bien, mon cher ami, on a-t-elle les chevaux, si tu te déclarais ?» Et avec Geneviève Maldon, avec Thérèse bientôt, le bonheur était entré au logis des pépinières. Madame Maldon y avait apporté sa gravité douce, son humeur égale, ce charme que certaines femmes possèdent au point que leur seule présence, un mot indifférent tombé de leurs lèvres, éveille comme de la reconnaissance. Thérèse avait été la vie, le mouvement, la gaieté. À peine elle était née, Robert l'avait incroyablement aimée. Il l'avait bercée bien souvent et promenée sur ses bras. Il avait appris à marcher, à s'amuser. Pour elle, il avait donné l'essor à son génie d'invention, trouvé des jouets, construit des moulins qu'on allait planter à la cime des vieilles souches, des bateaux avec des roues, des cerfs-volants et des poupées. Pour elle, surtout, il avait fait ce qu'il refusait de faire pour lui-même. Il s'était remis à étudier. Et pendant que son beau-frère, retenu au musée, continuait à préparer la plus belle collection ornithologique des provinces de l'Ouest, M. de Quérédol apprenait à lire à Thérèse, lui expliquait le catéchisme, la grammaire, l'histoire qu'il avait relue l'instant d'avant. Et puis ils jouaient, tous deux, pour se reposer de la leçon. Leurs deux rires se mêlaient, l'un par l'autre attirés. Et l'on lui dit que Robert, parfois, revenait tout jeune à force d'aimer l'enfant. Les moindres détails de ce temps-là lui demeuraient présents. Il se rappelait certaines robes qu'elle avait portées. Une blanche toute brodée par la mer, une autre bleue vers 3 ans. Et un peu plus tard, une rose où il y avait un semis de pâquerette. Mais surtout, des regards, des sourires pleins de ciel, des mots profonds qui n'en savent rien, des questions si fraîches qu'on les goûte avant d'y répondre. Car entre elle et lui, c'était l'absolue confiance, la permission conquise au prix d'un grand amour, de se pencher au-dessus d'une petite âme et d'y lire. Robert lisait un livre ouvert dans celle de Thérèse, notait tout, gardait tout en lui-même. Et le soir, quand Thérèse dormait là-haut, dans son lit à rideaux blancs, la porte de l'escalier entrebâillée pour que le moindre cri donnât l'éveil, il partageait son trésor. Il racontait à la mère et au père l'histoire de la journée. Aux pépinières, c'était le sujet habituel des conversations, sujet toujours cher, jamais épuisé, et qui se renouvelait à mesure que grandissait Thérèse. Les oiseaux même ne venaient qu'au second plan. Le plus extraordinaire, c'est que Thérèse ne fut pas gâtée. Elle demeurait soumise, prévenante, nature délicate qu'un reproche confondait, qu'on ne menait qu'avec de la bonté, de la raison, et qui comprenait à merveille son rôle, faisant sans compter autour d'elle, aux 3 amis qui l'entouraient, l'aumône de sa jeunesse en fleurs. Ô heure délicieuse, heure sans nombre du passé, comme il était doux de vous revivre et quelle consolation vous apportiez avec vous. Le vent fraîchissait, les bignonias, les rames de vigne ou de clématite, fouettées en tous sens, venaient toucher la main de Robert comme pour dire « Il est temps, voici la nuit noire et froide, rentrez, vous qui rêvez ». Vous avez reçu du soir ce que vous attendiez de lui. » Robert ferma la fenêtre et quand il se retrouva dans le silence de cette chambre tiède, sentant la paix qui régnait au dehors, dans de lui et autour de lui, il poussa un soupir de contentement. Toute impression pénible s'était effacée. Il revoyait Thérèse, sa Thérèse d'autrefois, toute naïve, toute rose, toute petite. Et cela lui redonnait confiance, grande confiance, dans la vie.